Du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus le Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il »« Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, le temps de l'Avent n'est pas particulièrement austère. Je veux dire par là que s'il a sa gravité propre, et bien sûr il l'a, il n'a tout de même pas la couleur plus sévère d'un temps pénitentiel que le carême, encore qu'il faut veiller d'assez près à ne jamais perdre l'équilibre du carême entre sens du péché et sens de la grâce, puisque selon saint Paul, là où abonde l'un, l'autre surabonde. Et pourtant, le troisième dimanche de l'Avent retentit d'une invitation particulière à la joie. On le nomme le dimanche de Gaudete, tout comme le quatrième dimanche de carême que l'on appelle dimanche de Laetare, traduction dans les deux cas, « Réjouissez-vous ». Le thème de la joie a été souvent mis à l'honneur par le pape François, que ce soit pour parler de la joie de l'Évangile, « Evangelii Gaudium », ou de la joie de la sainteté, dans sa belle exhortation que peut-être vous avez lue, « Gaudete et exultate »,« Réjouissez-vous et exultez ». Pour saisir ce dont il est ici question, le mot latin est un indicateur précieux. Joie se dit gaudium. Se réjouir se dit gaudere. Mais le verbe signifie aussi jouir de. Par là, peut-être, sommes-nous mis sur la piste d'une invitation à la profondeur. En effet, si la joie peut avoir les manifestations extérieures qu'on lui connaît, elle a surtout une dimension intérieure. En son fond, elle est ce qui étreint intérieurement un être lorsque profondément il ressent le bénéfice d'un bienfait, un don, d'heureuses retrouvailles, une épreuve surmontée, un but atteint, un défi relevé, un moment important de la vie intime, de la vie partagée, toutes choses qui lui redisent la valeur de la vie et du même coup sa valeur propre à ses propres yeux, ou aux yeux des autres, toute chose qui renvoie à de la densité, et non pas à un superficiel mouvement de contentement qui serait tout de surface. Dans l'Écriture, les invitations à la joie ne sont pas rares, qu'elles résonnent à l'issue de l'épreuve, voire au cœur même de celle-ci, au titre de l'espérance. La joie du salut, elle est vraiment de cet ordre-là. Et ce dimanche, l'invitation à la joie que nous entendons dans la liturgie retentit, alors qu'il n'est pas sûr que tout le monde ait le cœur à la fête, puisque, justement, les fêtes que nous préparons auront une physionomie, somme toute, marquée par l'adversité du moment, adversité sanitaire, adversité économique, adversité dans les relations humaines à tous les niveaux, puisque nous ne pourrons pas nous retrouver selon nos voeux et selon nos attentes les plus fortes. Et pourtant, malgré tout ça, si, mobilisation pour la joie. La densité intérieure, au titre de l'espérance, parce que, au-delà de l'adversité du temps, le printemps ne nous oubliera pas, comme disait un poète. Je crois que c'est Neruda, mais je n'en suis jamais sûr. Il se peut, il est même probable, que les explosions de joie attendront un peu que le gros de là ou des crises soit derrière nous. Mais l'avant demeure l'avant, et Noël demeure Noël. Un temps de joie, de densité, qui prépare un temps de joie, densité encore, densité de notre désir du salut, tel que chanté d'ailleurs de manière si tonique par le Magnificat de Marie que l'on chante aujourd'hui entre les deux lectures, et densité de l'amour de Dieu qui vient se révéler dans l'enfant de Bethléem. Vivons donc cette avant-dernière étape de notre marche vers Noël, marche à petits pas, sous le signe de la joie, tel que ses propos essaient d'en esquisser le sens. C'est un bon contrepoison, me semble-t-il, à la pesante morosité de nos incertitudes du moment, et je crois aussi un bon roboratif pour préparer nos lendemains. La semaine dernière, déjà, nous voyions entrer en scène Jean, le baptiseur et précurseur. Mais alors nous lisions saint Marc, qui ouvre son évangile de manière si tranchée, pour ne pas dire presque abrupte. Tout de go, il nous plonge dans le ministère public de Jésus, intronisé presque lapidairement par son devancier, Jean, dernier prophète de l'Ancien Testament, qui a déjà un pied dans le Nouveau. En quelques versets, plus ou moins les 11 premiers de son évangile, Marc dit pratiquement tout ce qu'il y a à dire, jusqu'à nous montrer la scène du baptême de Jésus par le Baptiste, puis Jean s'efface. Dès lors, Jésus va croître, comme l'a prophétisé le nouvel Élie, et il va accomplir son œuvre. Ses premiers mots sont « Le temps est accompli, et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Et cet Évangile, eh bien, n'est rien d'autre que lui-même. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean, le même Baptiste, mais dans une toute autre lumière, celle du quatrième Évangile. Et la première notation qui me vient à l'esprit est celle-ci. N'est-il pas frappant de noter d'entrée de jeu le contexte dans lequel apparaît la figure du Baptiste ? Il apparaît au cœur de la vision grandiose qui ouvre cet évangile-là, le prologue, comme on le nomme parfois. C'est un regard contemplatif ample qui envisage le mystère de la création en ses débuts et le mystère de l'histoire des hommes avant que le Verbe n'y soit entré. Et c'est au verset 6e que surgit un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et j'aime toujours rappeler que ce nom, Yohanan, signifie « Dieu fait grâce ». Et Jean, il est immédiatement intronisé comme témoin, avant que d'être soigneusement distingué de celui qu'il a charge d'annoncer. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Revient alors le Verbe, qui était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Quel emplacement de choix pour introniser le Baptiste. Et avant d'aller plus loin, ce que je souhaite juste noter ici, c'est la proximité établie entre celui qui n'est que l'annonciateur et celui qui est annoncé. Le mystère de l'un et de l'autre sont si intimement liés. Toute la prophétie en Jean converge vers le moment où le Verbe se fait chair. C'est le verset 14 que nous connaissons si bien, où Dieu se fait Emmanuel, Dieu avec nous. Augustin dit, pardonnez-moi, je cite de mémoire, mais je crois que je suis assez dans le vrai, « Jean était la voix ». Et d'ailleurs, il n'a pas prétendu être autre chose. Mais la parole, ce qui était porté par cette voix, c'était bien le Verbe. De la simple humanité de l'un, Jean, à la divinité de l'autre, Jésus, le Verbe fait chair, la distance pourrait sembler infranchissable. Mais l'apôtre évangéliste, dans une contemplation et une composition saisissantes, les rapprochent, ou plutôt révèlent leur intime proximité. Et il aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans son évangile. Cette notation se confirme plus avant dans le long passage que nous entendons aujourd'hui. Déjà apparaît la question qui va hanter tout le ministère de Jésus. Oh, elle se formule en termes simples, trois mots seulement. Qui es-tu ? En répondant, ou plutôt en ne refusant pas de répondre, Jean va rester à la place qui est la sienne. Il dira, et c'est sa première réponse, « Je ne suis pas le Christ ». C'est au verset 20. La Tobe introduit ce propos par ces mots. Il fit une déclaration sans restriction. Il déclara, « Je ne suis pas le Christ ». Et ensuite, en se récusant comme Élie, en se récusant comme le prophète annoncé, il va laisser ses interlocuteurs à leurs interrogations et à leurs repères. Au demeurant, aurait-il reconnu être Élie ou encore le prophète annoncé ? L'aurait-il cru, ses interlocuteurs ? Aurait-il su que faire de tels indices ? Aurait-il reconnu la plénitude des temps enfin advenu ? Sans doute pas. Et toute la dramaturgie de l'évangile de Jean tient là le nerf, qui va en assurer l'attention jusqu'au bout, jusqu'au procès, il est un peu prudent de mettre des guillemets ici, jusqu'au procès de Jésus lui-même, où toute la question, encore et encore, sera de savoir qui est-il ? Est-il le roi des Juifs ? Curieux moment quand même que celui de Jean le baptiseur, précurseur, aujourd'hui soumis à la même question que celle qui poursuivra Jésus tout au long de son parcours. Jean indique à ses enquêteurs que déjà « se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas », c'est au verset 26. Et il a sorti son propos du rappel que lui-même baptise avec de l'eau. D'autres évangélistes précisent que Jean désigne que le baptême dont Jésus baptisera sera de feu et d'Esprit Saint. Matthieu dit cela au chapitre 3e. Et nous ne pouvons pas ne pas avoir cette précision à l'esprit au moment où nous voyons le précurseur aux prises avec des questionneurs dont Jean nous montrera tout au long de son évangile et sans tellement de ménagement, car au fond, il est plutôt souvent polémique, que s'ils sont si peu disponibles aux réponses qui sont faites à leurs questions, c'est probablement parce qu'ils ont arrêté d'habiter leurs questions. J'aime beaucoup cette expression « d'habiter leurs questions », de sorte qu'ils ont toujours, à la fois, et les bonnes questions et les bonnes réponses. Mais il nous suffit de retenir la leçon. Aujourd'hui, c'est Jean, le Baptiste, le précurseur, qui est à la question. Et demain, ce sera Jésus. Tout l'Évangile nous montre si souvent un dialogue de sourds quand ce n'est pas une confrontation. Quelques pharisiens pourtant se montreront habitants les questions que leur pose leur foi. Je pense à des gens comme Nicodème, Joseph d'Arimathie ou encore Gamaliel. Et aujourd'hui, c'est bien plutôt de nous qu'il est question. Nous aussi, nous portons la question « Qui est-il cet enfant ? Vers qui nous allons ? À Bethléem ?» Et allons-nous vers lui avec des réponses toutes faites de catéchisme, appris par cœur, depuis longtemps ? Ou bien plutôt avec une heureuse curiosité et le désir d'une vraie rencontre qui nous ouvre au mystère de celui qui vient dans le monde tel qu'il est, dans nos vies telles qu'elles sont, nos vies à chacun, à chacune, notre vie partagée en communauté, en communion, en église, dans la société, dans le monde, notre vie partagée à tous et à toutes, avec le plus grand nombre, pour y apporter le salut et la joie de Dieu dont nous parlions au début de cette méditation. Gageons que si nous préparons les chemins du Seigneur dans nos cœurs, cela signifie que nous prenons soin de notre capacité d'émerveillement et de surprise pour ce que le Seigneur fit pour nous. La présence du Magnificat au cœur de la liturgie de la parole de ce dimanche est vraiment significative. Elle m'a d'ailleurs surpris quand je l'ai vue. Je m'attendais à un psaume et j'ai vu un morceau d'évangile, en fait. La jeune fille de Nazareth s'est constamment laissée dérouter et habitée au sens fort, dans sa chair, mais aussi dans toute sa vie, dans toute son âme, par le mystère de son fils. Mystère pleinement humain, mystère pleinement divin, rencontré seulement dans la personne concrète de Jésus, cette personne concrète que désigne le précurseur, le baptiseur. Tout ce qu'il faut nous souhaiter, c'est cette même disponibilité de cœur et d'esprit pour aller vers Bethléem à la rencontre de celui qui vient pour tout sauver. Bonne marche jusqu'à Bethléem. Amen.